Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Une incroyable aventure aujourd'hui. Faites-moi confiance. Je vous ai déjà raconté beaucoup d'aventures ici, en voilier, à la rame, en surf des neiges, en moto, en deux chevaux. Mais des histoires comme celle-là, franchement, jamais. Il y a 2 ans, vous vous êtes lancé dans un défi complètement fou, parcourir en parapente toute la chaîne de l'Himalaya. Et vous en avez fait un livre qui sort chez Guérin, Vol au-dessus de l'Himalaya. Et ce qu'il y a de formidable dans votre histoire, c'est qu'elle raconte la performance sportive, certes, mais pas que. En débarquant par le ciel dans tous ces pays qui bordent l'Himalaya, il vous est arrivé tout un tas d'aventures humaines. Je vais tenter de raconter tout ça. C'est une histoire que j'ai écrite avec Pierre Anquetin, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Laissez-moi vous présenter Jean-Yves. Jean-Yves Fredriksen. Blutch, comme l'appellent ses copains. Au moment où commence cette histoire, il a 41 ans. Il est guide de haute montagne en Haute-Savoie. Il est marié et papa de 2 adolescentes. Et depuis qu'il a 13 ans, c'est un mordu de parapente. Mieux que ça, il pratique désormais le parapente bivouac. Le parapente, vous savez ce que c'est. C'est un parachute déplié, on court, on décolle, on vole, et quand on a fini de prendre son pied, on descend et on atterrit. Eh bien, le parapente bivouac, c'est la même chose, mais en itinérance. On décolle, on se pose, on passe la nuit, on redécolle, on se pose, on passe la nuit, et ainsi de suite. C'est de la randonnée en parapente. En 2013, il a volé comme ça à l'est de l'Himalaya, côté indien. En 2014, il s'est envolé au-dessus des pics du Karakoram, toujours dans l'Himalaya, mais côté pakistanais. Et là, en 2016, il s'est juré de traverser tout l'Himalaya. Et aujourd'hui, 25 août 2016, c'est le grand départ. Depuis le Tadjikistan, un petit pays coincé entre l'Afghanistan et la Chine, à l'ouest de l'Himalaya. Un petit village qui s'appelle Mamosgo. Vous le voyez là? Le chevelu avec son énorme sac à dos? Eh ben, c'est lui. Ça y est. Il est lancé, il part de l'ouest de l'Himalaya, à gauche sur la carte, et il veut aller à l'est, à droite sur la carte. 4000 km par-dessus les plus grands sommets du monde. 6 pays, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal et Birmanie. Et dès le départ, il souffle comme un bœuf. Il veut rejoindre un col à 3500 mètres. Et s'il souffle comme ça, c'est à cause de son fichu sac à dos. Presque plus gros que lui. 50 kilos sur le dos. Sa toile, bien sûr, son parachute, son harnais, ses instruments de pilotage, sa trousse de couture pour réparer, du matériel d'alpinisme, et puis sa tente, son sac de couchage, ses réchauds, ses casseroles, 2 litres de carburant, quelques vêtements de rechange, des caméras, des téléphones, 200 grammes de thé, 1 kilo de riz, un peu de poivre, du curry, du cumin, du paprika, 20 boulettes sèches de fromage de brebis, de l'huile d'olive, des fruits secs, des bonbons, des biscuits, des galettes de pain, 3 litres d'eau, et c'est quoi ça? C'est quoi ça tout en haut du sac? Eh ben on dirait une boîte de violon. C'est un violon. Il emporte son violon. Il est 11h du matin, et au bout d'un raidillon, Jean-Yves sent un bon petit vent ascendant, alimenté par de puissantes rafales. C'est exactement ce qu'il lui faut. Alors il étale sa voile derrière lui, rouge avec un rectangle blanc de chaque côté et devant une bordure jaune. Il branche son GPS, il allume son variomètre, son vario, l'appareil électronique qui mesure le vent. Et en 2 enjambées, il se lance et le voilà dans les airs. Suspendu suspendue à mon bout de chiffon, est toujours un miracle pour moi. Je tourne à l'intérieur d'une bulle d'air chaud ascendante, un cadeau de la nature invisible pour l'homme terrestre, mais bien concret pour tout animal volant. Et vite, il s'éloigne des parois de la montagne. Et là, il laisse glisser son gros sac en arrière. Son sac est maintenant suspendu en dessous de lui. Et lui, il s'installe sur sa sellette, une sorte de balançoire. Il glisse ses jambes et son bassin dans un sac isolant. Et c'est parti ! Cap à l'est ! Le long de la chaîne de l'Himalaya. Et en dessous, il y a des pâturages, des troupeaux, des bergers qui lui font de grands signes. Et très vite, à la hauteur du parachute, des sommets rugueux, de petits glaciers, la haute montagne qui commence. Et petit à petit, comme ça, porté par les courants ascendants, les courants thermiques, les bouffes, comme on dit dans le milieu, il monte, comme dans un ascenseur naturel. Et le voilà à 5300 mètres d'altitude. Et là, on se calme, hein, parce qu'à 6000, il peut tomber dans les pommes par manque d'oxygène. Donc on s'arrête, on ne cherche plus les bouffes, on se stabilise. Jean-Yves franchit comme ça les vallées, les unes après les autres, et aux alentours de 4h30, il sent que l'ascenseur naturel devient faiblard. Il est temps de se poser. Il faut donc trouver un point de chute. Il voit deux petits lacs émeraudes juste en dessous, et à côté une petite plaine, idéale. Il se met à descendre en spirale en tirant sur ses manettes. Pour l'instant, tout va bien. Et là, d'un coup, à quelques mètres du sol, le vent s'inverse d'un coup et il le propulse vers le bas. Bam ! Heureusement, en bas, c'est de la boue. Jean-Yves s'y enfonce comme dans du beurre. Blups ! C'est ça, le parapente. On ne sait jamais vraiment où et comment on va tomber. Fin de la première étape. Il regarde son GPS, il a parcouru 120 km. C'était magnifique. Il est content, il est grisé même. Mais il est épuisé, ratatiné. Et là, il plante sa tente. En face de lui, le soleil est en train de se coucher. C'est le paradis sur terre, le paradis, tout seul, peinard. Sauf que lui, la solitude en fait, il déteste. Il est paradoxal, hein. Il fait tout ça pour se retrouver à l'ouest, paumé, et fondamentalement, il n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que je fous là, tout seul comme un con? Dans quelle galère je me suis fourré? Il pense à sa famille, à ses potes, il est au paradis, il a le blues. Et comme c'est un bec sucré, il a la parade. Il avale quelques bonbons, un gâteau, il fume une clope, il cogite encore un peu, et il s'endort comme une souche. Sur un drôle de matelas, sa voile, pliée, il n'y a pas plus douillé. Le lendemain, Blutch a repris du poil de la bête. Vers 11h30, les conditions sont idéales, il redécolle. Et il vole comme ça pendant 4 jours, en bivouaquant, en général près d'un lac. De temps en temps, il pique une tête dans l'eau glacée. Et il repart. En vol, en général, quand c'est beau, il filme. Avec sa caméra GoPro. Et là, juste en dessous, il est en train de filmer la vallée du Vakhsh. Un fleuve à côté de collines de sable. Le Sahara au bord de l'eau. Et il atteint les contreforts de la chaîne de Pamir, avec son pic à 7500 mètres, le Samani. Il est toujours au-dessus du Tadjikistan. Et il cherche un endroit pour se poser. Et il voit une tente de berger. Et à côté, le berger qui l'observe. C'est sympa, ça. Il va poser le pied sur le sol. Et là, 4 chiens furibards sortent de la tente et se ruent vers lui. Et les chiens, comment dire, il aime pas ça. Et donc, sans toucher le sol, il remonte aussi sec. Hop! Et il va se chercher un autre endroit, 1 kilomètre plus loin. Il casse la croûte, il se repose un peu, et tout d'un coup, il est sur le point de repartir. Il voit surgir de derrière les buissons un homme à cheval. Il reconnaît le berger de tout à l'heure. Il a un fusil et il est costaud. Et il le met en joue. Jean-Yves lève les mains.
« Touriste ! Française, Françoise ! Touriste !»
Le type descend de son cheval et il lui fait signe de marcher.
« Davai, davai ! Vite, vite !»
Et il marche comme ça jusqu'à sa tente. Et là, il voit arriver un militaire avec une kalachnikov. Le berger l'a capturé pour le livrer aux autorités tadjiks. Ouf ! Ça va s'arranger. Et là, les chiens déboulent. Et ils se jettent sur qui ? Sur le militaire, qui se met à tirer. Et deux clébards tombent sur le carreau. Du coup, le berger est furieux, il prend son fusil et il met en joue le militaire et Jean-Yves. Blotch se jette à plat ventre, il a les bras en croix, ça dure longtemps et là déboulent deux autres militaires. Le berger est coincé, il pose son arme et Jean-Yves se relève.
Touriste ! Françoise ! Françoise !
Françoise, Françoise, il l'embarque. Et il l'emmène au village en contrebas. Au passage, il lui balance quelques coups de crosse dans les côtes et sur la tête. Et au village, il le jette dans un pick-up. Et ils le conduisent à Garmes, la grande ville la plus proche, dans une caserne de police.
Your name? I'm Jean-Yves Fredriksen.
Et là, il comprend. Le berger l'a pris pour un terroriste. Et surtout, il s'aperçoit que tout son matériel est étalé dans la pièce. Ils ont tout récupéré. Et là, il doit s'expliquer sur tout. Ses caméras, son passeport, son argent, ses provisions. Au bout de 4 heures, un policier en costume lui annonce
« It's okay for today. Do you want to sleep here? Or do you want to sleep in hotel ?»
Il lui demande s'il veut dormir là, à la caserne, ou s'il préfère un hôtel. D'après vous, il l'emmène dans le meilleur hôtel de la ville.
Come back tomorrow, 10 o'clock.
En vérité, la police revient le lendemain à 16 heures. Et là, il comprend qu'il est mal barré.
Vous avez enfreint plusieurs fois les lois du Tadjikistan. Tu as volé sans autorisation, sans déclarer itinéraire au ministère de l'Intérieur. Tu as approché les frontières sans aviser la sécurité intérieure. Ta licence internationale de vol n'est pas valable. Et en plus, tu as survolé 7 sites militaires sensibles.
C'est pas gagné. Nouvel interrogatoire. Après quoi, le policier l'invite au restaurant. Véridique.
Appelle-moi Brakfin. C'est mon surnom en Ultimate Fighting. C'est du sport de combat.
Avant, il était au KGB. Maintenant, il travaille pour les services secrets tadjiks. Et il revient le lendemain.
Bon, j'ai retenu 2 chefs d'accusation. Absence de déclaration de ton itinéraire et non-validité de ta licence de vol. Tu passes au tribunal demain.
Et Jean-Yves est condamné à 4550 saumonies d'amende. Ça fait dans les 500 euros. Il paye. Il signe des dizaines de papelards. Malheureusement, il lui pique une caméra et ses cartes mémoire. Et il saute dans un taxi pour Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. Avant de repartir, il demande à son flic Brakfin.
Alors, t'es convaincu maintenant que je suis pas un terroriste ? Soit tu es très fort, soit tu es complètement givré.
Les deux, mon capitaine. Il est à la fois très fort et complètement givré. Mais ça change un peu ses plans. Il avait prévu de survoler l'Afghanistan en parapente, il ne va pas le faire. C'est trop dangereux. De toute façon, il n'avait pas l'autorisation. Il va rejoindre le Pakistan en avion. Et le voilà donc qui prend son envol au Pakistan, juste à la frontière afghane. Il monte à 6300 mètres. Le paysage est magnifique. Une cathédrale de rochers oranges au-dessus d'un torrent, la rivière Hunza. Le soir, Il se pose près d'un village. Les gens sont accueillants, souriants. Il achète des cerises, des abricots, il goûte un gâteau aux noix, au miel et au caramel. Il se réconcilie avec l'Himalaya et ses habitants. Les jours suivants, la météo se gâte. Il pleut, il souffle un vent mauvais, il y a de la neige. Il reste bloqué plus d'une semaine. Et c'est là qu'il sort son violon. Eh oui, vous vous souvenez, au départ, juché sur son gros sac, il y avait une boîte à violon. Il est violoniste, Jean-Yves.
C'est la loose. Que je suis arrivé au Pakistan, ben, il n'y a quasiment plus tous les jours.
Jean-Yves redécolle le 17 septembre. Il vole pendant 7 heures, 150 km. Et quand brillent les derniers rayons de soleil, il est à 4650 mètres et il décide de se poser sur une plaque de neige juste en dessous. Mais là, faut pas se rater. Autour, il n'y a que des rochers, un champ de rochers. Il descend et à 5 mètres du sol, d'un coup, hein, plus d'air porteur, bam ! Il se pose d'un coup et il rate la plaque de neige, il s'écrase sur un gros rocher et dans le choc, le bloc de pierre bascule et il perd connaissance. Quand il se réveille, il sent une terrible douleur à la cheville droite. Mais ça va, elle n'a pas l'air cassée. Tout le reste est intact, y compris le violon. Le lendemain, il repart, pendant 40 km à 4000 mètres d'altitude. Il longe une paroi de neige et de glace. S'il tombe dedans, il est foutu. Il se sent minuscule. Et au moment de se poser, problème. Il sait qu'en dessous, il y a des talibans. Les islamistes tiennent la région. Et donc, il choisit de se poser dans la montagne, en haut. Au bivouac, il est rejoint par un groupe de nomades. Des vieux barbus, des jeunes rasés. Il se montre curieux, notamment de son matériel. Il s'assoit avec eux, il leur montre des images, les vidéos du jour. Et ils cassent la croûte ensemble. Il lui reste un dernier vol avant de passer en Inde. Il monte facilement à 5000 mètres et tout d'un coup, il entend un grondement à sa gauche. Un avion surgit à sa hauteur. Il passe à quoi? 200 mètres? Et il reconnaît le modèle? C'est un ATR-42, un petit avion de ligne à hélice, français, s'il vous plaît. Encore une fois, il l'a échappé belle. À partir de maintenant, l'Inde lui tend les bras. Mais la mousson aussi, la mousson s'éternise. Il pleut tous les après-midi. Au début, il se contente de faire des sauts de puce le matin, et puis au bout d'un moment, il prend des risques. Il saute d'un cumulus à l'autre, il descend le moins possible. Parfois, il se fait secouer comme un prunier, mais tant pis. Il vole même quand il neige. Il vole dans les nuages, sans visibilité, juste aux instruments. Il a hâte d'arriver au Népal. Et vous savez pourquoi? Il a un rendez-vous là-bas. Un rendez-vous avec sa femme et avec ses deux filles. Jean-Yves retrouve sa femme Laetitia et leur fille le 14 octobre à l'aéroport de Katmandou, au Népal. Et il fait un break de 2 semaines à l'hôtel. Du coup, le 4 novembre, la séparation est douloureuse. Il leur promet qu'il sera en France à Noël. Et il repart vers les cimes. Je suis un salaud. Oui, je sais, c'est mal. Mais je veux savoir jusqu'où je peux pousser cette aventure. Il doit maintenant traverser le Népal jusqu'à l'Everest.
Musique
Le lendemain, au décollage, il sent tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. L'air est bizarre. Ça tourbillonne, ça rafale, ça faiblit. Il y va quand même. Et là, il est pris dans une dégueulante. Au lieu de monter, il descend, en frôlant une paroi de pierre. Il descend, et à un moment, un petit courant thermique le fait remonter lentement. Mais d'un coup, le courant s'arrête, plus d'air, le silence. Ça pue. La seconde d'après, une rafale le prend par en dessous, la voile se met en vrac, elle se dégonfle et il décroche. Il perd le contrôle de son parapente et il voit s'approcher une paroi de pierre à quoi ? 10 mètres ? Il tire à fond sur les manettes de frein, à fond, la voile se tend 2 mètres avant l'impact. Et puis il décroche à nouveau et là il va s'écraser au pied de la paroi, 30 mètres en dessous. Instinctivement, il replie ses jambes, il bascule en arrière pour tomber sur son sac à dos. C'est l'impact ! Je ne sens rien. Aucun choc. Je roule dans la pente, tout s'arrête, je suis immobile, conscient. J'attends plusieurs minutes avant d'oser bouger. Mais il est vivant. Il tourne la tête à droite, à gauche. Ça fonctionne. Il bouge ses doigts de pied, présent. Les chevilles, ça roule. Les genoux, les jambes se plient normalement. Il a juste très mal aux coudes et aux côtes. Il attend quelques minutes. Il plie le bras. Ça va. Ça marche. Il l'a échappé belle.
C'est de la merde aujourd'hui. Hein. Voilà. Je suis chaud au basket.
Et le lendemain, Blutch se lance fièrement sur les flancs de l'Annapurna. Le paysage est sublime. Les sommets blancs, les lacs verts. Après avoir traversé le massif, il se pose dans une jungle épaisse entre deux bananiers. Et il est en train de démêler ses fils. Et là débarquent trois gamins. Le plus grand vient vers lui.
My name is Jean-Yves. Milan.
Milan a 14 ans. Il est avec son petit frère de 10 ans et sa sœur de 8 ans. Blutch les accompagne jusqu'à leur maison, une cahute en terre avec un toit de chaume. Un feu se consume au milieu de la pièce. Et dans un coin, il découvre un quatrième enfant, tout petit, 6 ans. Et là, ça tombe bien, il connaît deux ou trois mots de népalais.
Ama, Babou, Maman, Papa.
Milan lui explique alors que sa mère est malade. Et que son père l'a emmené à l'hôpital. Et eux, bah, ils les attendent.
Et quand ? Quand vont-ils rentrer ? Papa a dit que maman ira mieux dans un, deux ou trois mois.
Trois mois, seul, à attendre. Il leur demande où il peut planter sa tente. Le gamin lui propose de dormir dans la maison. Ils sont contents, les gosses. Ils sont contents d'avoir de la visite. Le petit de 10 ans se met à préparer du bœuf sauté à l'ail et aux épices. La petite met le couvert. Pas question de les aider. Hein.
Buddy.
Il leur offre de petits cadeaux et il leur joue un morceau de violon. Le grand est fasciné. Et le petit se blottit contre lui. Et là, le téléphone sonne. Ils ont un portable relié à un petit panneau solaire. C'est le père qui vient aux nouvelles. Les gamins lui passent Blutch, mais évidemment ils ne se comprennent pas. Alors le lendemain matin, un cousin du village débarque. Le père lui a demandé de venir voir ce que faisait cet étranger dans sa maison. Normal. Mais pas de souci, il peut rester. Jean-Yves se promet que s'il gagne de l'argent en racontant cette aventure en France, il reviendra pour les aider. Les jours suivants, il enchaîne les bons vols et les galères météo. Il passe à 40 km au sud de l'Everest, le temps d'un selfie, et il trace sa route. Le 28 novembre, il a terminé sa traversée du Népal. Heureux, mais épuisé. Il a beaucoup maigri, il ne pèse plus que 58 kilos, le poids de ses 15 ans. Et là, il prend une décision. Il a promis de rentrer pour Noël. Il n'ira pas jusqu'en Birmanie. Il ira jusqu'à l'Arunachal Pradesh, à l'est de l'Inde. Et après, il arrête. Il va même arrêter avant. L'Arunachal Pradesh est un état frontalier de la Chine. Un jour, il atterrit en catastrophe, en marche arrière, entre un champ de cailloux, une ligne électrique haute tension et un camp militaire. Il se fait une énorme frayeur. C'est la goutte d'eau. Il en a à sa claque. Il arrête là. J'admets avoir baissé les bras. Et je ne ressens rien. Pas la moindre déception, pas la moindre remise en question. J'ai été largement au bout de mes forces, de ma motivation et de ma concentration.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.